Lettre première, premières orientations tactiques. Mon cher Wormwood, je prends note de ce que tu dis au sujet de l'orientation que tu donnes aux lectures de ton patient et du soin que tu prends à ce qu'il rencontre fréquemment son ami matérialiste. Mais n'es-tu pas un tantinet naïf? On dirait que tu t'imagines l'arracher aux griffes de l'ennemi avec des arguments. Ceci aurait été possible s'il avait vécu quelques siècles plus tôt. En ce temps-là, les humains savaient encore faire la différence entre une chose prouvée et celle qui ne l'est pas. Lorsqu'elle était prouvée, ils y croyaient ferme. Ils faisaient encore le rapprochement entre conviction et conduite, et ils étaient prêts à changer leur manière de vivre quand la logique le leur conseillait. Mais par le moyen des journaux et autres armes de propagande, et nous avons réussi en grande partie à changer cela. Ton homme a été habitué depuis tout petit à faire cohabiter une douzaine de philosophies contradictoires dans son cerveau. En jugeant d'une doctrine, l'essentiel pour lui n'est pas de savoir si elle est vraie ou fausse, mais si elle est académique ou pratique, éculée ou à la mode, conventionnelle ou décoiffante. Les punchlines et non les démonstrations seront tes meilleurs alliés pour l'éloigner de l'Église. Ne perds pas ton temps à essayer de le convaincre que le matérialisme est vrai. Fais-lui croire plutôt qu'il est cool, puissant, courageux, qu'il est la philosophie de l'avenir, car c'est ce genre de choses qu'il affectionne. Le problème, en faisant appel à la raison, c'est que tu te places sur le propre terrain de l'ennemi, qui lui aussi sait fort bien argumenter. Tandis qu'avec la propagande émotionnelle que je suggère, il s'est montré depuis des siècles bien inférieur à notre père d'en bas. Par le simple fait d'argumenter, tu éveilles l'esprit de ton cobaye, et une fois éveillé, qui peut prévoir les conséquences? Même si tu arrives à faire dérailler le train de ses pensées, et que cela tourne à notre avantage, tu constateras que tu as favorisé chez lui la dangereuse habitude de réfléchir aux grands problèmes universels de l'existence au lieu de le laisser constamment absorber par ses perceptions sensorielles. Or, c'est à cela que tu dois veiller. Apprends-lui à considérer que la vraie vie, c'est ce qu'il voit et touche tous les jours, et ne permet pas qu'il s'interroge sur le sens qu'il donne au mot « vrai ». Rappelle-toi qu'il n'est pas comme toi un pur esprit. N'ayant jamais été homme, oh ce scandaleux avantage de l'ennemi, tu ne peux te figurer à quel point les hommes sont dépendants des routines de leur vie ordinaire. Une de mes proies, un athée authentique, lisait un jour au British Museum, lorsque je vis ses pensées commencer à prendre le mauvais chemin. L'ennemi, bien sûr, se tenait à ses côtés. Déjà, je voyais menacer 20 ans de durs travaux. Si j'avais été assez fou pour essayer d'argumenter, j'aurais été battu d'avance. Mais je ne suis pas si bête. Sans perdre une seconde, j'ai attaqué là où je savais que je le tenais le mieux. Je lui ai rappelé qu'il devait être l'heure du déjeuner. Et probablement, l'ennemi a riposté en insinuant qu'il y avait là matière à réflexion bien plus importante que le déjeuner. Je dis probablement parce que tu sais qu'on ne peut jamais entendre clairement tout ce qu'il leur dit. En tout cas, cela devait être l'idée qu'il cherchait à lui communiquer, car lorsque je lui soufflais à l'oreille, très juste, en fait, la question est bien trop importante pour la travailler en fin de matinée. Le visage de mon patient s'illumina. Et quand j'ajoutais, mieux vaut y revenir après le déjeuner avec un esprit frais et dispo. Il était déjà à mi-chemin de la porte. Une fois dans la rue, la partie était gagnée. Je lui montrai un jeune vendeur de journaux qui criait l'édition de midi et un autobus 73 qui passait justement par là. Avant qu'il ait atteint le bas de l'escalier, j'avais profondément fiché dans sa cervelle la conviction que les idées bizarres qui peuvent parfois traverser l'esprit d'un homme confiné avec des livres ne sont d'aucun poids face à la vraie vie. Par là, il entendait l'autobus et le vendeur de journaux, et que par conséquent, ces idées étranges ne peuvent pas être vraies. Et conscient de l'avoir échappé belle, il parlait volontiers par la suite de cette impression indéfinissable de la réalité qui est notre ultime rempart contre les aberrations de la logique pure. Il est maintenant bien au chaud dans la maison de notre père. Tu vois où je veux en venir ? grâce à des procédés que nous avons mis en œuvre depuis des siècles. Il est quasiment impossible aux hommes de croire à l'invisible tant qu'ils ont l'ordinaire sous les yeux. Insiste auprès de ta cible sur la banalité des choses. Surtout, n'essaie pas de te servir de la science, de la vraie science, je veux dire, pour combattre le christianisme. Elle l'amènerait à réfléchir à des réalités qu'il ne peut ni voir ni toucher. Il est déplorable qu'il y ait eu, ces dernières années, plusieurs cas de ce genre parmi les physiciens modernes. S'il s'amuse à vouloir taquiner les sciences, oriente-le plutôt vers l'économie et la sociologie, mais sous aucun prétexte ne le laisse s'éloigner de cette si précieuse notion pour nous de la vraie vie. Le mieux, c'est encore qu'il ne lise aucun ouvrage scientifique, mais que tu lui donnes l'impression qu'il sait déjà tout et que tout ce qu'il peut glaner dans ses conversations ou ses lectures est le résultat des recherches les plus avancées. Souviens-toi que tu es là pour lui brouiller les idées. En écoutant certains de vous autres jeunes démons, on pourrait croire que notre mission est d'enseigner. Ton oncle affectueux, Screwtape.